Bonjour Sylvain Maillard.
Bonjour Frédéric Rivière.
Les candidats LR ont remporté les deux législatives partielles qui les opposaient à des représentants de La République En Marche dans le Val-d'Oise et à Belfort. La France du réel s'est exprimée, a dit Laurent Wauquiez, le nouveau président des Républicains. Malgré 8 mois de communication mensongère, dit-il, les électeurs ont envoyé un message clair à Emmanuel Macron et au gouvernement. Ces victoires marquent une étape importante dans le renouvellement et la reconquête menée par notre famille politique. Alors il va peut-être un peu vite en besogne, c'est sans doute ce que vous allez me dire. Laurent Wauquiez, il reste que c'est tout de même une déconvenue, non ?
Oui, Laurent Wauquiez, on reconnaît bien ses propos toujours dans la mesure intelligible. Non, c'est vrai que c'est deux partiels qui sont compliqués pour nous parce que ce sont deux territoires qui sont fortement ancrés à droite, qui ont toujours été fortement ancrés à droite, et puis dans une dynamique qui n'est plus la dynamique des législatives globales après l'élection d'un président de la République. Donc, on a un taux d'abstention dans les deux cas très important, particulièrement dans le Val-d'Oise, avec une candidate, nous, La République En Marche, qui a été invalidée pour des raisons tout à fait logiques, mais pour une raison moralement, on va pas rentrer ce matin dedans, mais compliqué pour elle et compliqué à accepter pour elle. En tout cas, c'est ainsi. Les citoyens du Val-d'Oise, du territoire de Belfort, en ont décidé. C'est vrai que c'est compliqué pour nous de construire une dynamique en dehors dans une élection partielle sans enjeu quelque part, puisque la plupart des électeurs se disent de toute façon ils ont déjà la majorité.
Oui, et une très large majorité. Mais ça veut dire tout de même quoi ? Que le macronisme n'a plus cette force d'entraînement qu'il avait il y a 8 mois ?
Non, d'abord, le territoire de Belfort, c'était déjà un candidat La République En Marche, Les Républicains, pardon, qui avait gagné. Donc là-dessus, il a été reconduit. Dans le Val-d'Oise, c'est un peu différent. La candidate Isabelle Mullerquois a fait campagne, mais dans une campagne compliquée, elle a eu du mal, elle aussi. Il faut, c'est quelqu'un que je connais bien, quelqu'un issu de la société civile, une prof de droit qui a eu du mal aussi à se relancer, elle, dans cette campagne, suite à son l'invalidation de son suppléant. Et donc, c'est toujours compliqué de repartir et de recréer une dynamique sur place quand vous-même n'êtes pas persuadé, en tout cas, d'avoir pleinement envie de porter ce message.
Il n'y a pas d'autre leçon à en tirer pour vous ?
Non, dans une partielle, il n'y a pas vraiment de leçons à tirer. Je crois que on le voit d'ailleurs dans l'ensemble des études d'opinion. Les Français adhèrent au message que nous portons, à la réforme profonde de notre économie. Là-dessus, nous continuons. Nous avons un programme très clair. Nous appliquons le programme pour lequel nous avons été élus. Là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait de remise à plat à faire de notre façon de faire.
Emmanuel Macron se rend demain en Corse. Ce qu'il va dire est très attendu face aux revendications des élus nationalistes ou indépendantistes qui demandent plus d'autonomie. Il réclame l'inscription de la spécificité corse dans la Constitution, le rapprochement des prisonniers qui se trouvent éloignés de l'île et la co-officialité de la langue corse au même rang que la langue française. Qu'avez-vous envie d'entendre de la part du président de la République ?
D'abord, le président de la République il va en Corse. Je pense que c'est un geste fort. Et les discussions sont ouvertes avec les autonomistes, les indépendantistes, qui sont aussi dans des revendications que vous venez de citer, qui sont dans des revendications aussi relativement constructives. On a un peuple qui était, en tout cas un territoire qui était à feu et à sang pendant des dizaines d'années et qui a pleinement choisi, il faut l'accepter, ça aurait pas été notre choix, mais il a choisi probablement une voie d'autonomie plus importante. Il faut l'entendre. Jacqueline Gourault, la ministre, est en charge des discussions. Emmanuel Macron va quelque part officialiser cette discussion qui va s'entamer et qui va s'entamer qui a déjà commencé, pardon, mais qui va continuer dans les prochains mois. Rien n'est abouti. Il faut voir aussi quel est l'objectif, c'est-à-dire que dans 5 ans, 10 ans, où on veut emmener la Corse, parce que au-delà des institutions, c'est quel est le développement de la Corse que veulent les Corses. L'insularité est compliquée, certes, mais il y a énormément de ressources sur cette île qui parfois ont été peut-être mal exploitées.
Mais il faut répondre favorablement aux 3 demandes que j'ai évoquées sur le rapprochement des prisonniers, sur la spécificité corse et sur la co-officialité de la langue corse.
Moi, je crois qu'il faut travailler surtout sur le développement économique. Le vrai problème de la Corse, c'est le développement économique.
Enfin, je veux dire, là, je vous pose une question sur des points précis.
Et ensuite, sur la discussion C'est une discussion.
Ouais.
C'est une discussion. C'est pas à moi de dire quelle sera l'issue de cette discussion. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les Corses, clairement, veulent le développement de leur île dans un état d'esprit pacifique, dans un esprit vraiment de construction du XXIe siècle en Corse. À nous de les écouter, à nous de les entendre, à nous de les accompagner dans ce développement.
Une vague de froid s'abat pour quelques jours sur la France. La semaine dernière, le secrétaire d'État au logement, Julien de Normandie, a affirmé qu'il y avait, et je cite, « pour être précis », a-t-il dit, « pour être précis », une cinquantaine de SDF qui dormaient dans la rue en Île-de-France. Vous êtes élu de Paris. Très franchement, est-ce que ce chiffre vous paraît sérieux ?
Il y a une incompréhension dans ces propos. Moi, je vais redire le chiffre exact. C'est évidemment, 50 SDF ne se voient pas proposer une solution pour être à l'abri chaque jour, chaque soir, à Paris, en Île-de-France.
C'est-à-dire les services d'hébergement ne savent pas quoi répondre, enfin ne sont pas en mesure d'accueillir 50 personnes par jour.
Exactement. C'est la moyenne de ce que l'on peut...
Mais ce n'est pas ce qu'il a dit.
On peut parfois, un micro, ne pas être suffisamment précis, ça arrive à chacun d'entre nous, mais en tout cas la réalité elle est là, le chiffre est exact, c'est 50 dossiers sur lesquels nous n'arrivons pas à donner de solution positive, favorable à une mise à l'abri, et ça c'est déjà 50.
Mais beaucoup plus qui dorment dans la rue tous les jours, bien évidemment, beaucoup plus de 50, et ça... C'est un échec pour le président de la République qui s'était engagé à ce qu'il n'y en ait plus avant la fin 2017.
Frédéric Rivière, vous avez eu la gentillesse de rappeler que je suis aussi un élu local parisien. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même dans les cas de grand froid, certains SDF ne souhaitent pas être mis à l'abri, souhaitent rester seuls dans la rue. C'est leur choix. Rien ne nous oblige, rien ne les oblige à être mis à l'abri. On doit leur proposer une solution, c'est pour ça que ces 50 cas dont a parlé par jour Julien de Normandie sont des cas sur lesquels il faut se pencher, c'est très important de proposer une solution à tous ceux qui veulent être mis à l'abri, mais il y a plein de raisons pour lesquelles un SDF refuse d'être mis à l'abri. Tout simplement ne pas vouloir être en communauté, certains d'entre eux sont dans des situations psychologiques très compliquées, d'autres souhaitent rester en couple et les structures d'hébergement n'accueillent pas forcément les couples, d'autres sont avec des animaux domestiques, et les structures d'hébergement n'accueillent pas forcément les animaux domestiques. Bref, il y a un ensemble de situations qui font qu'un SDF peut décider de rester dehors.
Alors, je vous pose la question autrement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, selon vous, plus de 50 SDF en Île-de-France qui dorment dans la rue malgré eux ?
Nous, le chiffre que l'on a, c'est 50. Le chiffre, c'est que 50 SDF par jour dorment malgré eux dehors dans le froid.
Les autres, c'est parce qu'ils le veulent.
Une autre partie. Vous savez, on a énormément de maraudes. D'ailleurs, je voudrais vraiment saluer tous ceux qui se mobilisent, la protection civile, la Croix-Rouge, des associations en permanence en Île-de-France pour venir proposer des solutions alternatives. Mais
au-delà
certains d'entre eux ne souhaitent
tous les
pas.
Les autres, c'est leur choix de dormir dans la rue.
L'immense majorité, c'est leur choix, oui.
François de Rugy veut faire appliquer strictement les sanctions financières pour les députés qui seraient multirécidivistes de l'absence, des sanctions qui peuvent atteindre 4 320 euros en cas de présence à moins de 2/3 des scrutins solennels. Est-ce que cette sévérité vous paraît une bonne idée ?
Oui, un député est payé pour être présent à l'Assemblée nationale pour au moins les votes solennels. Le métier de député est quand même assez différent d'une circonscription à l'autre, des implications dans un dossier ou pas, d'opposition ou de majorité. C'est compliqué à caractériser quelle doit être l'activité d'un député. Mais en tout état de cause, voter les grands textes pour, contre ou s'abstenir nous semble quand même la base du travail d'un député. Et puis surtout, ceux qui sont très absents, il y en a beaucoup moins que de la législature précédente, parfois abîment ce qu'est un député et la fonction du député. Donc je crois que c'est important de rappeler que nous sommes payés aussi pour être présents dans l'hémicycle.
Merci Sylvain Maillard, bonne journée.